Europe 1.
Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est philosophe.
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Julia de Funès.
Bonjour.
Un livre aux éditions de l'Observatoire pour en finir avec ces identités qui nous figent, écrivez-vous. Pourquoi les identités nous figeraient-elles forcément? Pourquoi les identités nous égareraient-elles? Est-ce qu'elles ne peuvent pas nous construire aussi?
Oui, alors il y a plein de choses dans votre question. Elles nous figent parce que c'est la définition même de l'identité. L'identité, c'est rechercher l'identique, le même, la permanence, un invariant. Donc évidemment, c'est rechercher ce qui est fixe par-delà la temporalité et l'évolution créatrice de la vie. Pourquoi elle nous égare? Parce que, à titre individuel, rechercher une identité, c'est parfois rentrer dans un rôle, dans une posture qui peut nous dissimuler à nous-mêmes, qui peut nous pousser à jouer, à être, à vivre à la surface de soi-même et à nous éloigner de nous-mêmes. Et à titre collectif, les identités, on le voit dans notre époque, les communautarismes se renforcent, la ferveur identitaire s'intensifie, jusqu'à parfois ébranler les principes républicains. Donc c'est en ce sens que je dis qu'elle égare, et bien sûr qu'elle peut aussi nous construire, parce que dans l'idée d'identité, il y a l'idée d'identification.
Ça
et
peut
pour
être
se
refuge,
construire,
alors.
Il faut bien s'identifier.
Donc c'est pas forcément un égarement.
Non, c'est pas forcément un égarement, mais si se construire, ça veut dire s'identifier, appartenir à un ensemble plus grand, bien sûr que l'identité peut construire, mais si se construire ça veut dire s'individualiser, se singulariser, trouver son soi véritable, à ce moment-là, je crois que l'identité n'y répond pas.
Et pourquoi faudrait-il alors, Julia de Funès, se débarrasser des identités, fussent-elles nationales, en les balayant justement d'un revers de main universaliste? Au nom de quoi?
Alors non, oui, moi je pense que le revers de main universaliste ne marche plus du tout, malheureusement, et qu'il ne faut pas du tout rembarrer d'un revers de main l'identité nationale. Mais je crois que l'identité nationale ne marche pas pour créer le sentiment national. L'union nationale ne procède pas d'une identité nationale. Si je vous demande de définir l'identité française, l'identité nationale, on va être peut-être en désaccord ou c'est indéfinissable. Donc je ne crois pas à cette icône, à cette image d'Épinal qui est très subjective, qui est très personnelle et qui n'a jamais suffi à rassembler une nation. Qu'est-ce qui marche? Pourquoi on fait corps? Pourquoi on est solidaire à un moment? Je vais prendre des exemples tragiques, mais s'il y a un attentat demain, là, le pays sera uni. S'il y a une guerre, le pays
pour
sera uni.
Pour combien de temps, malheureusement?
Oui, mais au moins, il y aura des parenthèses d'union et de solidarité véritable. Donc je crois beaucoup plus à l'émotion, à la peur du risque, ou à une émotion plus positive. Un match de foot peut aussi créer une ferveur identitaire. Mais je crois beaucoup plus à l'émotion qu'à l'identité pour créer le sentiment national.
Alors, on va creuser cela parce que qu'on le veuille ou pas, et je vous pose la question, Julia de Funès, il y a des peuples, des populations qui refusent d'être noyées dans une sorte de globalisation effrénée, dans un cosmopolitisme pourtant, et qui se raccrochent à leur identité, alors française, européenne ou même chrétienne.
Oui.
Est-ce qu'ils ont tort aujourd'hui de s'y raccrocher?
Non, c'est un refuge et on comprend très bien le besoin d'appartenance. Mais c'est pas parce qu'on déconstruit l'identité qu'on tombe nécessairement dans un cosmopolitisme bontain, comme vous dites, ou une globalisation effrénée. Moi, j'ai écrit une grande partie de mon livre sur le sentiment d'un nous, sur le sentiment collectif, mais qui passe, je crois, par autre chose que l'identité.
Et l'identité, c'est aussi ce qui demeure. C'est une sorte,
oui,
de permanence dans le temps. Est-ce qu'on ne s'y raccroche pas parce qu'on, tout simplement, on a peur, on a envie que certaines choses demeurent, qu'elles,
oui,
persistent, qu'elles restent?
Oui, c'est vrai et c'est tout à fait compréhensible comme désir. Mais c'est un leurre, c'est une illusion, parce que qu'est-ce qui demeure identique à travers le temps?
Son
rien,
histoire.
Rien.
Son identité.
Alors l'histoire est constitutive de l'identité. Moi, je ne suis pas du tout à balayer l'histoire ou à balayer l'héritage. C'est constitutif de l'identité. Mais on ne peut pas pour autant réduire l'identité à l'histoire. Il y a une très belle phrase de Finkielkraut dans L'identité malheureuse qui dit « L'histoire, c'est le nous dans le jeu. » Donc comment définir un soi par ce qui n'est pas soi? Ça ne veut pas dire qu'on dénigre l'histoire, mais ça veut dire que l'histoire n'est pas un conditionnement. C'est une condition d'existence, c'est une situation, mais ce n'est pas un déterminisme. C'est une donnée, ce n'est pas une irréductibilité. On ne peut pas faire... L'histoire, c'est un point de départ, mais ce n'est pas une ligne d'arrivée.
Alors, s'il faut en finir avec ces identités qui nous figent, vers quel modèle faut-il aller? Il n'y a pas mille solutions.
Non, mais celui de la liberté. Moi, c'est le seul.
Parce que vous ne plaidez pas pour un modèle multiculturel, par exemple?
Non, pas du tout, parce que je crois que le sentiment vraiment national ou le sentiment d'un soi à l'échelle individuelle sont absolument essentiels, sont des impératifs. Mais je ne crois pas que ça passe par l'identité. Pourquoi seule la liberté, je ne crois qu'à ça, et ça rejoint évidemment l'universalisme, c'est-à-dire que seule la liberté permet à un être d'exister, de ne pas se réduire à un échantillon, chrétien, musulman, ce que vous voulez. Seule la liberté permet à un mode de gouvernement, la démocratie, qui n'est pas fondée sur l'identité mais bien sur la liberté, de perdurer. Et on n'a pas trouvé un mode de gouvernement plus pérenne et plus pacifique que celui-ci pour l'instant. Donc seule la liberté, pour moi, évite le piège de l'identitarisme qui est à l'œuvre dans chaque drame collectif et dans chaque naufrage individuel.
Mais par exemple, l'identitarisme woke aujourd'hui vous dit oui. Non, pas de liberté si ce n'est justement d'être enfermé dans une identité. Quel modèle faut-il opposer à cette identitarisme
woke? Oui, sur le woke, on peut très bien comprendre certaines revendications. Je ne suis pas complètement à renvoyer d'un revers de main le wokisme parce qu'il peut y avoir des discriminations, des injustices dans la réalité qui sont prohibées par la justice mais qui demeurent persistantes dans la réalité. Donc on peut avoir la pensée suffisamment élargie pour comprendre qu'il y ait des codes qui peuvent être des systèmes de pouvoir insoupçonnés. Donc je ne rejette pas tout du wokisme. Mais je
Par
rejette
exemple,
de manière...
le néo-féminisme, vous dites, vous posez la question, en quoi les femmes seraient-elles mieux représentées par les femmes?
Oui. C'est confondre la représentation et la représentativité. Je peux être représentée par un avocat homme, peut-être de manière plus pertinente que par une femme qui est avocate et qui est moins pertinente dans son métier.
Alors donc comment vous l'expliquez à Madame Sandrine Rousseau et
Je lui dis qu'elle confond la représentation et la représentativité. La représentativité, c'est vouloir l'identité, l'identitarisme entre la personne représentée et le représentant. Et la représentation, c'est on dépasse ces différences-là et on recherche plutôt le mérite et la qualité.
L'universalisme ressemble aujourd'hui pour beaucoup à une sorte de modèle désincarné, il n'en reste plus grand chose, il n'y a plus de chair, vous le défendez malgré tout encore.
Non, je le défends parce que je suis profondément universaliste, mais j'ai bien conscience qu'il ne suffit plus, qu'il a perdu de sa puissance, qu'il a perdu de son prestige et que invoquer l'universalisme ne sert quasiment plus à rien. Je le regrette parce qu'il y a des livres de philosophes qui sortent en ce moment sur le génie français, on ressort tous les grands auteurs, mais le problème c'est que si on est aux prises, on reste aux prises avec le réel, on se rend compte que ça parle à une très petite catégorie de Français. Donc comment éviter le piège de l'universalisme indifférenciant sans tomber dans un identitarisme étriqué? C'est ça la question. Et pour moi, la seule solution, c'est de hiérarchiser les choses.
C'est un chemin de crête. Quand on parle identité, je le disais tout à l'heure, Juliette de Funès la renvoie, ça résonne avec l'actualité, notamment l'un des sujets évoqués souvent, c'est l'immigration. Mm-hmm. Et vous dites dans votre livre, je vous cite, l'identité est à l'origine de bien des conflits, vous les détaillez à l'échelle familiale, nationale, internationale, et vous insistez sur la France qui rencontre, dites-vous, un problème identitaire majeur lié à une immigration massive n'ayant pas le projet de changer de valeur pour adopter celle du pays qui les accueille. Mm-hmm. Mais vous ajoutez juste après une phrase qui contrebalance un peu ces propos directs. Pourquoi vous ressentez le besoin de nuancer? Vous avez peur vous-même qu'on vous mette dans une catégorie?
Non, pas du tout. C'est pas une question de peur. C'est que pour moi, je pose le problème existentiel, pas le problème politique. C'est pas mon registre, c'est pas mon métier. Et pour moi, le problème existentiel est celui-ci que la France rencontre à l'échelle européenne ou à l'échelle nationale. Comment persévérer dans son être? Comment parvenir au maintien de soi tout en étant ouvert à l'altérité? Donc comment s'harmoniser un ensemble? Voilà, exactement,
ouais.
Jusqu'où? Le curseur, c'est une question politique, mais la problématique est une question existentielle. Voilà pourquoi je contrebalance avec les deux points de vue.
Vous savez qu'à droite, on dit que vous êtes woke, et à gauche, on dit que vous êtes réacos. Est-ce que vous êtes précisément?
Je suis sur la ligne de crête, sur le fil de la nuance. Je refuse d'écraser
d'un côté de l'autre.
Oui,
alors.
Mais justement, je crois que quand on est dans l'honnêteté intellectuelle, qu'on essaye de penser vraiment les idées, on évite le ravin de l'idéologie, qu'elle soit conservatrice ou qu'elle soit progressiste. Et si j'avais fait un livre qui déconstruit l'identité et qu'on puisse m'identifier à partir de ce livre, ce serait une contradiction en soi. Donc je suis très heureuse qu'on ne m'identifie pas.
Qui sont les porteurs de cet ordre identitaire selon vous aujourd'hui? Qui cherche à l'imposer? Est-ce que vous pourriez nous les décrire dans
oui,
le...
Oui, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est l'identité était préemptée à droite. C'était une notion très historiquement à droite, à l'extrême droite. Aujourd'hui, l'identitarisme est aussi à gauche. Donc vous voyez que c'est très frappant de voir que l'identité n'appartient à aucun domaine idéologique, mais elle appartient aux deux partis les plus radicaux, la gauche radicale ou la droite plus radicale.
Vous avez cité tout à l'heure le livre d'Alain Finkielkraut qui avait fait couler tant d'encre. C'était l'identité malheureuse. Je vous pose la question directement. Est-ce qu'il n'est pas plus facile aujourd'hui d'écrire un livre pour en finir avec les identités qu'un livre à l'époque comme Alain Finkielkraut qui dit au contraire, voici l'identité, elle est là et elle est malheureuse dans notre pays.
Ce serait facile d'écrire un livre qui déconstruit l'identité si on était dans la déconstruction identitaire. Ce
auquel on peut souscrire, on peut croire à ça, mais pour moi c'est tout à fait faux. On est dans la construction radicale, on n'est pas dans une déconstruction des identités traditionnelles, on est dans un affermissement des moindres particularismes. L'identitosphère s'étend au point de faire des moindres différences, des mini-impérialismes. Donc on est dans l'ère de l'effervescence identitaire, de l'acmé identitaire. Donc écrire un livre qui déconstruit l'identité au moment de l'apogée identitaire, c'est pas ce qui s'appelle être facile, c'est ce qui s'appelle nager à contre-courant.
Mais d'accord, si on met de côté les identitaires et qu'on tient à l'identité. Certains de nos auditeurs peuvent vous dire, mais nous, on tient à cela, parce que c'est un héritage culturel, c'est une permanence. Comment les faire s'éloigner justement de cette identité-là?
Non, il ne s'agit pas de faire éloigner, on peut avoir des sentiments d'appartenance très forts, mais c'est de montrer que le sentiment de soi ne procédera pas de ses appartenances. L'appartenance rassemble, réunit, mais elle ne distingue jamais. Si on veut aller un peu plus loin, tout en ayant des appartenances et en ayant vraiment le sentiment, éprouvant le sentiment de soi, à ce moment-là, je crois que ça passe par d'autres expériences, celles de la liberté, mais je fais un vade-mecum dans mon livre, des pistes très concrètes pour ressentir vraiment le sentiment de soi à travers différents
auteurs. On va en parler, parce que là on va parler de l'individu, Julia Dufinès. Comment justement on se construit dans un monde qui cherche à globaliser nos comportements et qui cherche à les lisser?
Je crois qu'il n'y a qu'une solution, c'est le courage d'être soi-même, oser l'aventure d'être soi.
Ça ne se décrète pas malheureusement.
Non, c'est très dur, c'est le travail d'une vie.
Une recette.
Mais le problème, c'est que parfois on se rend compte de ça à 40 ans, 50 ans, 60 ans, et on a obéi à tellement d'injonctions éducatives, sociales, culturelles, qu'on a l'impression d'avoir vécu à côté de sa vie. Donc si on peut en prendre conscience le plus tôt possible et d'oser ce courage-là, ça me semble être évidemment salutaire.
Et quand est-ce qu'on a le sentiment justement de soi? Est-ce qu'on l'éprouve à un moment? Est-ce qu'on se réveille un matin disant...
Non, je crois pas que ça tombe du ciel et qu'on se réveille un matin avec. Je crois que c'est une question de volonté, une question de courage. On peut l'éprouver, si vous prenez un auteur comme Proust, on peut l'éprouver à travers une sensation. Tout d'un coup, on ressent quelque chose, on se retrouve soi-même. Et c'est très lié à l'histoire, vous voyez, au passé. On se retrouve soi-même et on a le sentiment de se récupérer, de savoir être à soi. Quand est-ce qu'on a vraiment le sentiment de soi? Quand on agit à partir de soi-même, quand vous faites vraiment un choix délibéré, personnel, vous avez le sentiment d'agir à partir de vous-même. Donc je crois que c'est beaucoup plus. Là, je vous donne deux exemples, mais je crois que c'est vraiment à travers la liberté qu'on accède, qu'on parvient à ce sentiment de soi-même.
Et si je vous demandais, Julia Dufinès, de définir votre propre identité?
Ah bah alors là, ça marche pas pour moi, comme ça marche pas pour le reste. Sinon, j'arriverai à un catalogue, à un CV.
Vous avez déconstruit votre identité.
Je suis une femme française, 43 ans, parisienne. Ça ne dit. Vous connaissez mon CV, vous ne savez absolument rien de moi.
Non. Donc vous vous êtes délivrée de la fixité identitaire.
Je me suis délivrée de l'illusion qui consiste à faire d'une identité une existence et qui consiste à croire que le sentiment de soi procède de l'identité.
Et pourtant, vous êtes le produit de votre famille, d'une histoire. Et quelle histoire? Je voudrais en dire un petit mot quand même. Dans ce contexte un peu morose. Évidemment, on connaît vos grands-pères, vos grands-parents exceptionnels, notamment votre grand-père qui fait partie de la vie et du foyer des Français. Quand on a l'impression qu'on s'égare comme vous, est-ce que parfois vous regardez un de ces films, tout simplement?
Bien sûr, c'est un antidépresseur. Quand je suis déprimée, je regarde un de ces films. Mais dans ma famille, ça a été vraiment une exigence. C'est pas un hasard que je fasse ce livre, évidemment, parce que mes parents et mes grands-parents ont toujours fait en sorte qu'un nom, aussi célèbre soit-il, ne soit jamais une identité, une suffisance, et que ce soit une chance, c'est certain, mais que ce soit une suffisance, une prétention, un orgueil, un avantage, certainement pas. Donc ça a été toujours une exigence.
Vous avez beaucoup écrit sur le travail, Julia Dufinès. Je voudrais qu'on conclue par ça. On en parle beaucoup. Il y a l'assurance chômage. Il y a eu une étude récemment qui montre qu'il y a une grande flemme des Français après les crises que nous avons traversées. Vous êtes d'accord avec ce diagnostic?
Non, je suis pas d'accord. Je crois pas. Je trouve que on tombe dans la moraline. C'est tellement plus facile. Je crois que c'est ne rien comprendre au changement de place du travail dans la vie, notamment des plus jeunes générations. Aujourd'hui, on assiste à un changement de paradigme sur le sens du travail très frappant, c'est-à-dire que le travail ne fait sens aujourd'hui que s'il concède à n'être qu'un moyen au service de l'existence. Alors que pour ma génération, j'ai 43 ans, et pour les précédentes, on avait une tendance forte à considérer le travail comme une finalité en tant que telle. On avait un beau boulot, on avait réussi sa vie sociale. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, mais qui est-ce qui donne le plus de sens à son travail? C'est pas ceux qu'il considère comme nous avant, comme une finalité en tant que telle, parce que travailler pour travailler n'a aucun sens. C'est ceux, et notamment les plus jeunes générations, qui considèrent le travail comme un moyen pour s'épanouir dans l'existence, pour gagner de l'argent, pour voyager, pour tout ce que vous voulez. Donc le gros paradoxe, c'est qu'aujourd'hui le travail fait sens que s'il concède à n'être qu'un moyen. S'il continue de se penser comme une finalité en tant que telle, il perd tout son sens.
Mais c'est pas évident de réfléchir comme ça. Ça dépend aussi du travail, des conditions, de la hiérarchie.
Oui, mais le sens est partout, parce que souvent on me dit oui, mais se questionner sur le sens de son travail, c'est quelque chose de bourgeois. Pas du tout. Le sens est beaucoup plus évident quand on travaille à l'usine. La question du sens, elle se pose pas. soi parce qu'elle est tellement évidente qu'elle ne se pose plus. Mais évidemment que le sens au travail est une question qui concerne tous les types de travaux.
Mais je vais vous dire, ça fait du bien de venir au travail quand on interviewe quelqu'un comme vous.
Moi,
ce matin.
C'est un vrai plaisir d'être interviewé par vous. Merci beaucoup.
Julia de Funès, Le siècle des égarés aux éditions de l'Observatoire.